Merci d'écouter France Inter, il est 14h04 et Denis Chessoux avec vous, on va aller respirer en pleine nature,
oh, j'adore ça. Ensoleillé. Oui, tout à fait, j'espère que vous n'êtes pas trop dehors, enfin si en même temps, mais vous écoutez cette émission tranquillement dans votre jardin. On va partir en trop dans le Grésivaudan qui se trouve entre Chambéry et Grenoble, et surtout avec un homme assez génial qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Patrick Deschamps. Ça vous dit pas grand chose, mais vous verrez, non. Cet homme-là, est... non, mais vous... c'est un naturaliste.
Deschamps s'est adapté.
Voilà, bah oui, il l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça, parfois on est prédestiné, vous le savez, par son nom. Il y aura bien sûr Jean-Marie Pelt, et puis on fera un petit tour avec la semaine sans pesticides. Voilà,
ah,
cher Michel.
Une bonne résolution.
Je crois que c'est pas mal. À tout à l'heure, à 15h.
À 15h, ça marche.
Et tout d'abord, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement sur France Inter avec aujourd'hui Olivier Dalibaud, Claudine Lapersole, Victor Buton qui sont là, assistés de Jean-Baptiste Audibert. Je n'oublierai pas la complicité de Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors, une petite humeur, oh bah oui, certainement, vous savez, je vais prendre peut-être un petit peu la route buissonnière par rapport à l'actualité, car lundi, France Inter sera totalement radioactive pour les 20 ans de Tchernobyl. Vous saurez tout sur les Becquerels, la vie quotidienne dans les pays de l'Est, bataille de chiffres, sécurité dans nos vaillants 58 petits réacteurs Made in France. Et on avait, c'est vrai, consacré la moitié de l'émission du 8 avril à Tchernobyl. Je change donc de sujet en ayant glané cette courte information. Si je vous dis espèce exotique envahissante, à quoi pensez-vous? Alors, je ne sais pas, aux étudiants dans les rues, les lycées, les universités? Non. Aux plombiers polonais? Non. Aux oiseaux migrateurs porteurs de la grippe aviaire? Non. Ou bien aux engins motorisés qui profitent de l'heure d'été pour s'en aller butiner les fleurs des prés? Pas du tout. Je vous arrête tout de suite. Les espèces exotiques envahissantes, ce sont des bestioles et des plantes qui prennent le train de la mondialisation, ou plutôt le bateau et l'avion, et qui partent à l'aventure, loin de leur terre natale. Alors ça concerne aussi bien, je sais pas, les ragondins, le mimosa, ça a été son cas aussi, les jussias, le merle de Maurice à La Réunion, la tortue de Floride, les exemples sont extrêmement nombreux. L'espèce exotique, quand elle débarque, eh bien, d'abord elle tâte le terrain. Elle prend ses informations, elle se renseigne sur les habitants de l'écosystème, les concurrents, les prédateurs, qui sait, tout ça. Et puis, clac, elle passe à l'action. Alors voilà, j'en viens à mon information, je prends l'écureuil gris. Cet adorable petit monstre importé d'Amérique s'épanouit en Europe. Et il a envahi l'Angleterre et maintenant il s'attaque à l'Écosse. Problème numéro 1, l'écureuil gris vous épluche un arbre en moins de 2. Ça rigole pas, c'est pas si on regardait les Gremlins un jour à la télévision, mais en tout cas il y a un petit peu de ça. Deuxième problème, après la vache folle, la tremblante du mouton, la grippe du poulet, l'écureuil gris nous apporte la variole de l'écureuil, une maladie qui est fatale à son cousin d'Europe, l'écureuil roux. Et celui-là évidemment vous le connaissez, c'est celui de nos parcs, de nos jardins, de nos forêts. Bilan de l'opération, l'écureuil roux a pratiquement disparu d'Angleterre. Heureusement, un membre de la Chambre des Lords a eu une idée de génie. Lord Inglewood, il y a 2-3 semaines, a proposé à ses pairs de mettre l'écureuil gris au menu des auberges du royaume. Alors, comme lui, ami de la biodiversité, joignez le geste écologique à la gastronomie. Et aujourd'hui, je vous propose les moules zébrées du Canada à la marinière, les cuisses de grenouille taureau à l'américaine, le filet de perche du Nil sur son lit d'algues tueuses, ou bien le jarret d'écureuil gris et son soufflet de maïs OGM contaminé. Mais attention, le choix des espèces à éliminer demande finesse et doigté. Ne vous laissez pas tromper par des cuisiniers peu scrupuleux, pas du tout. Vous vérifiez l'origine des espèces que vous consommez. Exigez le label espèce exotique envahissante. La nuit, on le sait bien, tous les écureuils sont gris. Alors, à notre menu à nous, eh bien, ce sera tout à fait autre chose. Menu de CO2, mon amour, malgré... Ah bah tenez, je tiens à vous le dire, parce que malgré un petit coup de blues, vous savez, sur l'audience générale des radios, eh bien, votre magazine de nature et d'environnement se porte plutôt bien, on vous en remercie. Il y aura Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt, donc, raconteur, baroudeur, qui affrontera les océans. Oui, tous. Bon, d'accord, il va rester à terre. Il va observer la montée des eaux. Hein. Vous faites fondre quelques glaciers, vous réchauffez l'atmosphère. La mer est là, elle se dilate. dilate la masse d'eau et hop, ça monte. De combien ? Ça, c'est une autre histoire. Jean-Marie Pelt, dans quelques instants. Et puis, donc, nous irons dans le Grésivaudan avec Patrick Deschamps, cet homme que vous allez découvrir tout de suite.
Si Dieu il y a, il est là. Il est là dans le petit bourdon qui rentre sa tête dans le calice de la fleur, là, clac, clac. Il est là dans le champ de la mésange à longue queue qui est en train de gueuler parce qu'on doit être près de son nid quelque part.
Ouais.
Il est dans le bruit du ruisseau qui descend, dans les nuages qui s'écartent pour le laisser voir la neige sur les massifs de Chartreuse. Là, Dieu, il est là pour moi. Voilà.
Ouais, voilà, donc c'est un homme qui est plein de poésie. On passe à sa découverte. Ça va être une jolie balade, je crois, avec lui. Un petit peu décalé comme on les aime dans cette émission. Et enfin, nous prendrons des nouvelles de la semaine sans pesticides avec François Veillerette. Ça n'occupe pas, évidemment, la première page de l'actualité. Mais vous allez voir que beaucoup, beaucoup d'actions sont assez positives dans ce sens. Allez, c'est parti en musique.
Africa, 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 Africa. Africa nossa, Africa, 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 Africa minha, Africa nossa.
Seu Jacques Larian, consciência já desanuviar, já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma cedor, para reviver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo.
Dikantek Senegal ak Kabermane soreul Sumu yebone ñaari rew yi benn la Sama gente gi mangi ñaan Yalla won mako Afrika don benn rew ndax ya di suñu ya
Afrika Afrika Afrika
Yama nga yelo Yama nga fanan
Afrika Afrika Africa,
jamanga yelo, te jamanga ifana.
Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma cedor, para reviver na página progresso.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo. Continente fecundo,
tomo África, nani bolote japante, punho japante, gana amdole, con sama gente gi mangi nyan yala wan mako, África don benereo, nach modi sunyaya.
África, África, África,
yamanga yelo, yamanga ifana. Manga yelo, te jamanga ifana.
Africa, sunu, Africa,
Africa minha, Africa nossa.
Africa, sunu, Africa.
Hop, nous descendons de cette chanson. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis. Bonjour à tous.
Vous êtes toujours Monsieur Pelt, il me semble.
Toujours.
Bon. Et alors,
fidèle.
Vous arrivez en direct, non pas de votre baignoire, mais de l'océan, et on va scruter la montée des océans. Bon, polémique hein, autour de cela. Ça va monter de combien? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Faisons un petit peu le point.
Il y a une seule chose qu'on sait, c'est que la mer monte en ce moment et qu'elle va continuer à monter. Mmh. Et ce qu'on ne sait pas, c'est de combien elle va monter. Alors, on sait pourquoi elle monte.
Les causes.
Les causes, on le sait. D'abord parce qu'il fait plus chaud. Surtout aux hautes latitudes, où il y a par conséquent des banquises, et ces banquises fondent. C'est très visible au Groenland. Les ministres de l'Environnement ont été faire une réunion tous ensemble au Groenland pour voir des visus le recul de plusieurs kilomètres d'un grand glacier. Alors, actuellement, les satellites nous permettent de mesurer la montée qui est de, écoutez, c'est pas beaucoup, hein, 0,2 mm par an. Ça fait 20 cm par siècle, là, en ce moment. D'accord. Mais c'est plus qu'au siècle précédent où c'était 15 cm. Et c'est plus qu'au siècle avant où c'était 10 cm. Donc il y a une tendance à l'accélération.
Alors les prévisions de ce qu'on appelle le GIEC, c'est effectivement le regroupement des climatologues du monde.
Les climatologues du monde ont ce site particulier qui sont en gros d'accord entre eux, ce qui est très très rare chez les scientifiques, oui, qui sont toujours en désaccord, comme chacun sait. C'est pour ça qu'il faut toujours plusieurs experts qui se disputent, alors, oui, dans, oui, les tribunaux, les experts.
Puis une commission pour arbitrer les experts, peut-être.
Voilà, absolument. Alors, les gens du GIEC, qui sont donc les experts du climat, prévoient qu'à la fin du siècle, la mer augmentera, disons, je fais en gros, entre 10 cm et 90 cm. C'est-à-dire que leur fourchette, elle est énorme. Oui. Donc ils ne savent pas bien.
Non, mais parce qu'il y a aussi l'incertitude de notre comportement.
Voilà, absolument. Et on ne sait pas comment nous allons faire pour diminuer les gaz à effet de serre, sachant que même si on les diminuait fortement, il y a un phénomène d'accumulation
et d'inertie
qui jouerait de toute façon. Donc ça, c'était leur prévision. Et puis alors, voilà-t-il pas que des scientifiques de l'Arizona, au mois de mars, il y a quelques jours, ont dit non, elle va augmenter à la fin du siècle de 4 à 6 mètres. Alors ça, c'est évidemment un peu vertigineux. Ils ont été évidemment contestés. Ça prouve que parfois, il y a quand même des gens qui ne sont pas tout à fait dans la pensée commune de la majorité. Mon avis, c'est que je crois que cette hypothèse est peu probable. Mais mon avis, c'est que je crois aussi que la mer va monter pour de bon beaucoup. Car si on prend le cas du Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, pendant les glaciations, c'était pas une île. Et quand la glace a fondu, il est devenu une île. Et il a pris, en gros, la mer, en gros, a monté chaque année au Mont Saint-Michel de 60, 70 centimètres par siècle. Par siècle. Donc on risque d'avoir ce cas de figure. Et alors, si on a ce cas de figure, c'est très, très embêtant pour les atolls qui n'ont pas d'altitude, qui sont au ras de la mer comme des petites crottes de mouches.
Donc là, on va avoir des éco-réfugiés. Et on sait que le symbole de cela, c'est la petite île de Tuvalu.
Absolument.
Qui est un état, d'ailleurs.
Qui est un état indépendant, qui est sous l'eau. Quand on voit les images de Tuvalu, les gosses barbotent dans l'eau, les voitures roulent dans l'eau, les vélos sont dans l'eau. Et il y a déjà eu 3000 réfugiés. Et le problème de Tuvalu, comme d'ailleurs d'autres îles, parce qu'il n'y a pas que celle-là, c'est qu'ils cherchent qui va vouloir les accepter. Et les Australiens ne veulent pas. Alors il y a un conflit en Australie, un conflit entre les travaillistes qui sont à la gauche, qui voudraient les accueillir, et puis les conservateurs, donc qui sont à la droite, et qui ne les veulent pas. Alors, il faut attendre que les majorités changent, parce que souvent, quand les majorités changent, ça change un peu, puis après, on change de majorité, pour que peut-être ces malheureux Tuvaliens aboutissent en Australie, alors qu'actuellement, ils vont en Nouvelle-Zélande et ils vont au Canada. Il y a aussi le cas très inquiétant du Bangladesh. Le Bangladesh, il est très, très bas. Et puis alors, il y a une population énorme.
On l'a toujours connu, j'allais dire que tout petit, on a toujours eu effectivement le Bangladesh inondé, la mousson.
Voilà, avec d'innombrables morts. Oui. Et les morts se comptent par centaines de mille. Les inondations du Bangladesh, les morts se comptent par centaines de mille. Alors là, on a une inquiétude. L'inquiétude, c'est ceci. La mer monterait, mettons, de 50 cm. Il y aurait, à un moment, marée haute. À marée haute, il y aurait un gros typhon qui pousserait la mer vers l'intérieur. Et ça correspondrait à une période où il y aurait une énorme inondation, où les eaux du Gange et du Brahmapoutre, en raison de pluies violentes sur l'Himalaya, seraient très très hautes. Et les très hautes eaux de l'intérieur rencontreraient les très hautes eaux venant de la mer. Alors ça monterait plusieurs mètres. Et là, on considère qu'il y aurait des millions de morts. Et actuellement, du point de vue de la météorologie mondiale, c'est la catastrophe qui fait le plus peur. Les climatologues craignent que ce cas de figure tragique se produise dans cette région tellement peuplé.
Revenons évidemment au point de départ, c'est-à-dire le réchauffement climatique, l'homme qui a quand même monté le thermostat et déréglé ce climat, et là on est sur l'après-Kyoto.
Alors on est sur l'après-Kyoto, on voudrait continuer à agir vigoureusement, il faudrait en fait agir plus vigoureusement qu'on a agi dans le cas de Kyoto. C'est ce dont on a discuté, mais encore très très prudemment et d'une manière elliptique, à Montréal il y a 3 mois. Et puis alors j'ai rencontré à la grande université de Louvain un éminent climatologue qui est Monsieur Van Nippersel, qui fait partie du bureau du GIEC. Alors je lui ai demandé, vous en êtes où ? Il m'a dit, ça s'aggrave. J'ai dit, non mais arrêtez. Et j'ai dit, mais vos prévisions pessimistes de 5,8 degrés en plus à la fin du siècle, eh bien, il dit, nous ferons de nouvelles prévisions en 2007 et probablement qu'elles seront plus sévères. Alors nous sommes devant un problème tout de même très sérieux, c'est que ce foutu réchauffement climatique va changer complètement la donne, va faire monter les mers, va augmenter les catastrophes naturelles, va modifier les zones de végétation.
Les cultures, et donc là aussi sûrement l'alimentation.
Et voilà, et on aura des zones de sécheresse, et on aura aussi peut-être plus de neige dans les montagnes, enfin tout peut arriver, donc nous allons attendre.
Bon, nous attendons, et on vous retrouve avec beaucoup d'optimisme la semaine prochaine, Jean-Marie. Vous faites attention si vous voyez de l'eau monter chez vous, dans votre jardin. Voilà.
D'accord.
Au revoir, Jean-Marie.
Je monte sur le toit.
Oui.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
J'adore. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets. Je remets le son et je recoupe le son. Et attention, je remets le son.
Mais oui, mais c'est très branchouille, c'est de mon amour. Évidemment, c'était Philippe Catherine, Louxor, j'adore. Vous mettez ça sur un sentier de montagne à fond. Je crois que vous avez un succès absolument formidable. Non, c'était très très bien. C'est bien sûr Karl Vasseur qui nous a choisi ce disque. Je parlais de montagne. Nous allons y aller. En fait, nous allons rester dans la plaine. Écoutez cet homme, c'est notre reportage.
Quand on se promène dans un paysage comme ça, il y a une espèce de lien qui se fait avec l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vois ce noyer qui n'a pas encore ses feuilles, avec toutes les corneilles en haut, accrochées en haut, ça me fait penser à un tableau de Bruegel qui s'appelle Le Recensement, où on voit un village comme ça en hiver avec des arbres complètement défeuillés et plein de corneilles accrochées aux branches. Et à chaque fois que je vois ça, je pense à ce tableau de Bruegel et puis je me sens une espèce de fraternité avec les gens de cette époque. Et qu'est-ce qu'ils ont dû en baver par rapport à ce que nous on a comme confort.
Après un invité connu tel Renaud la semaine dernière, qui a d'ailleurs suscité à la fois, je crois, pas mal de belles réactions, puis aussi quelques critiques, et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que l'indifférence, eh bien un homme que vous ne connaissez sans doute pas, sauf si vous êtes son voisin dans le Grésivaudan, une très belle plaine fertile, nourrie par l'Isère, entre Grenoble et Chambéry, donc entre les massifs de Chartreuse et du Belledonne. Et donc il s'appelle Patrick Deschamps, il intervient de temps en temps dans cette émission. L'homme est comédien, il est sensible à la poésie, c'est un excellent naturaliste et il pose sur ses contemporains, sur l'évolution des paysages et notre société, je dirais un regard qui est à la fois acéré et assez joyeux, vous allez le comprendre. Donc on est parti, on a ouvert le micro et voici ce que ça donne.
À quoi reconnaît-on une voiture de chasseur ? Aux autocollants de Bécasse et de Perdri qui sont collés dessus.
Allez, on traverse. Et où nous emmenez-vous, Patrick ?
L'odeur de gasoil, là, c'est bon.
Sympa, hein ?
Ah ouais, ben on va descendre dans la plaine, là. On va essayer de voir ce qui reste des mûriers.
Donc on faisait quoi ? Du verre à soie, ici ?
Ah ben oui, les mûriers, ça fait 2 siècles que ça a été importé en France. Je crois que ça a commencé à l'époque de Diane de Poitiers, tout ça. Ils en ont fait venir partout. D'ailleurs, je crois que dans le village, il y avait une magnanerie. Mais ça, là, tout ça s'est tombé complètement en désuétude. Et donc, les mûriers ne servant plus à rien, n'ayant plus de but économique, on les rase. Surtout qu'il ne faut pas faire d'ombre aux noyers, aux plantations industrielles de noyers. Donc, à chaque fois, c'est les vieux arbres qui passent à la casserole. C'est plus rentable, on les coupe. Le problème, c'est que dans le mûrier,
il y a de la vie. Il y a la chouette chevêche, voilà.
Et que comme c'est très camouflé, très homochrome, et que de toute façon les gens ils ont des yeux mais qui regardent pas, et ben souvent on passe à côté sans les voir. Et quand on les voit pas, on peut pas savoir qu'elles existent. Et quand on peut pas savoir qu'elles existent, et ben ça nous embête pas qu'elles disparaissent. Porsche. Toutes les grosses fermes de Sainte-Marie-d'Aloy, c'est des anciennes maisons de vignerons et qui vivaient complètement en autarcie parce qu'il y avait la ferme complète, il y avait le pressoir à huile de noix, il y avait les granges, il y avait les étables, les écuries. Donc tous les corps de bâtiments sont gros, puissants comme ça. Avec ils sont bien entretenus.
Ça doit être une poutraison de mêlée, ça, non ?
Oh, je pense. Ouais. C'est carrément des troncs de peupliers, des fois entiers. Moi, chez moi, c'est un tronc de peuplier qui fait pratiquement toute la longueur de la façade. Mais c'est puissant, en tout cas. Ils utilisent la forme de l'arbre, quoi. C'est pas tout taillé au cordeau, bien droit, bien rectiligne, sans poésie. C'est vraiment intéressant.
On est évidemment dans une société très, très normative. On parle sans arrêt de procès, dans tous les sens, etc. Et tout. On veut rassurer, en fait. Alors qu'en fait, quand on regarde la nature, les choses s'ordonnent mais ne sont pas au carré.
Ah ouais, y a une chose qui me fait toujours rire, c'est que quand on fait des jardins dits à la française, des alignements d'arbres, on voudrait toujours que ce soit bien au cordeau comme une revue militaire. Et après on s'aperçoit que l'arbre il commence à partir à gauche, puis partir à droite, puis prendre des branches qui sont pas pareilles que les autres, puis se prendre des boursouflures, et puis deviennent torves, et commence à prendre une vraie nature. Et d'un seul coup on voit que l'alignement il commence à se déformer et la nature revient. Et c'est vrai qu'on perd en poésie parce que tous les bâtiments modernes qu'on voit maintenant, tout est taillé absolument rectiligne, à angle droit. Il n'y a plus utilisation de la courbure du bois, tout ça. Il y a des charpentes encore magnifiques ici. Ouais. Voilà, donc on va déboucher sur le chemin de l'Empereur.
Qui est votre chemin des mûriers.
Hein, et oui, c'est un peu, là on va voir qu'il reste encore quelques mûriers, des gros mûriers têtards. Là, ils sont tronçonnés, mais ils vivent toujours. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce qu'un arbre est creux qu'il vit pas, puisque la vie c'est autour, c'est le cambium, c'est autour de l'écorce. Le cœur de l'arbre en fait est mort. Donc même un arbre complètement creux, il peut très bien continuer à vivre.
Ah, puis là avec le vent, changement d'odeur, on n'arrive pas loin de votre lagunage naturel hein, que vous avez créé il y a combien d'années déjà?
Oh bah il a 20 ans maintenant ce lagunage. Hein. Et c'est un vieux lagunage, il commence à être adulte maintenant. Alors le problème là c'est que les eaux ils sont à 18 degrés et là visiblement avec le vent du nord c'est beaucoup plus froid. Ouais. Et quand les eaux sont plus chaudes il y a des montées d'odeurs quoi. Donc là on est dans le vent, on est juste dans le vent du lagunage donc ça sent un petit peu le soufre et les égouts quoi. Voilà, on est à un carrefour du chemin de l'Empereur. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, quand on dit Empereur, on pense qu'à Napoléon, mais il y en a eu d'autres avant lui.
Ben oui.
C'est pas du tout Napoléon, l'Empereur, c'est Marc Aurèle.
Ah, c'est bien avant.
Ah oui, c'est bien avant. C'est quand il était les foutre sur la tronche des Allobroges, en Savoie, qu'il est passé. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Chaparayan, un peu plus loin.
Ouais,
Campus Aurelianus, le camp de Marc Aurèle.
D'accord.
C'est l'origine du nom Chaparayan. Donc là, imaginons qu'ici, il y a des cohortes romaines qui sont passées. Non, mais on peut rêver. Hein, imagine les mecs avec leur caliga, leur pique et tout ça, avec leur barda sur le dos, qui allaient là-bas pour aller abattre des arbres, pour faire un camp, pour aller foutre sur la gueule des Gaulois. On a deux vieux mûriers. Alors ici, ouais, c'était un parking de chasse. Il y avait six mûriers et ils ont eu la bonne idée de couper tous les mûriers qui étaient là-bas. Il ne reste plus que ces deux-là. Celui-là est complètement creux. Et là, il y a une couple de chouettes qui nichent. On en a aussi au milieu de la plaine là-bas, dont on a fait le symbole du village. Il n'y a pas un plus beau symbole qu'un vieil arbre parce qu'il a, il a une histoire. Il a ses racines qui plongent dans la terre et puis ses branches qui sont dans le vent. Donc, il subit tous les assauts de la vie, les tourmentes, les tempêtes et tout. Et c'est bien l'image de la vie humaine. Quoi.
Et alors là, en restant tranquillement depuis un certain temps, eh ben ça y est, on voit notre chevêche. Parce que pour beaucoup de gens, chouette, tout ça, sa vie, la nuit. Pas du tout. Là, on est face à cette bestiole qui est diurne. C'est la Athéna.
Oui, la chevêche Athéna, il y a un endroit, moi j'aime bien jouer à ça, c'est-à-dire que je me mets à peu près à 50 mètres,
ouais, c'est ça,
je la regarde, je l'ai dans les jumelles, et je vois arriver un jogger, et il arrive, il s'approche de l'arbre, et puis hop, la chevêche elle plonge dans son trou, et moi la joggeuse ou le jogger passe devant moi, et alors je lui dis, vous l'avez vu? Il me dit quoi? Bah, la chouette. Hein? Une chouette? Où ça?
Camarade.
Ben, en plein jour, il n'y a pas de chouette. Je dis, comment ça, il n'y a pas de chouette? Mais si, dans l'arbre, là, vous venez de passer à côté d'un arbre, il y avait une chevêche, il y en avait même deux. Vous les avez pas vus. Alors vous regardez quoi quand vous courez? Vous traversez le monde sans le voir? À quoi ça sert d'avoir des yeux? Elle dit, ah bon, il y a des chouettes ici? C'est quoi? Ben ça, c'est la chouette chevêche. Chevêche Athéna, Athéna noctua, c'est parce que c'est un oiseau, bon, c'est vrai qu'on le voit en plein jour, donc c'est un oiseau qui est souvent lié à la déesse Athéna, parce que c'est la déesse de l'intelligence. Et c'est un oiseau qui a un regard assez vif, assez transparent et d'une certaine façon on a l'impression qu'elle vous perce votre secret et qu'elle voit et que c'est un espèce de lien entre le monde des morts, le monde des vivants, c'est une espèce de mythologie. Or c'est un oiseau qui était très commun à Athènes parce que c'est un oiseau méditerranéen qui adore la chaleur, c'est pour ça qu'on le voit en plein jour. Quand il y a un gros épisode pluvieux comme ça, elle sort très souvent juste après la pluie quand le soleil revient. Quand on en voit une, on en voit d'autres. Sur tous les mûriers qu'il y a ici, il y a à peu près 7 territoires. Vous êtes sûr que vous en voyez au moins 2 ou 3. Elle se chauffe au soleil, elle adore ça. Et c'est la chouette qu'on voit le plus facilement en plein jour, avec ses yeux dorés. C'est une toute petite chouette. Hein. Et il y a des moments, quand un arbre est coupé, par exemple, les mûriers, quand ils sont taillés, il y a juste des moignons de branches comme ça. Donc ça fait des petits rectangles gris.
Elle vient de rentrer, là. Pardonnez-moi, c'est vrai qu'elle vient de rentrer. Parce qu'elle nous observait, on ne la voit plus. Là.
Voilà. Et des fois, elle fait des petits mouvements avec la tête, comme ça, en haut, en bas, comme ça, parce qu'elle essaye de voir qu'est-ce qui vient là. C'est souvent une chouette. La chouette, elle supporte beaucoup le passage, mais elle supporte pas l'observation. Ça, c'est une chose aussi par rapport à son don de voyance. Un oiseau, souvent, il supporte le passage, mais il supporte pas qu'on l'observe. Et sans un oiseau, sans qu'on l'observe. Oui. Par exemple, vous avez un oiseau sur une branche, vous mettez les jumelles dessus, il s'envole. Voilà. Mais souvent, le jogger passe, elle bouge pas la chevêche.
Mais non.
Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas l'objet de l'attention de la personne.
Bon, une fois de plus, c'est toute l'histoire des écosystèmes. Donc, il faut aussi ces arbres-là. On peut les retrouver à quel endroit ? Il y a bien sûr ces arbres, ces mûriers, les arbres morts. Quoi d'autre ?
Les vieux bâtiments agricoles. Alors, le problème ici, c'est que les vieilles granges, elles s'écroulent toutes. Les belles granges avec des magnifiques charpentes. Comme elles ne sont plus entretenues, les tuiles faîtières sautent, il y a le bois qui pourrit, puis la première grosse neige, tout ça, ça s'effondre. Il y a un couple de faucons cresserelles qui nichent dans la grange. On voit le mâle qui est perché sur un nichoir que j'ai mis en haut du...
Ah ouais.
Même dans une grange tout en métal, comme ça, j'ai équipé d'un nichoir les faîtières de l'auvent du toit, et il y a un couple de cresserelles qui nichent là.
Ah ouais.
Alors là, un autre territoire à chevêche. Alors là, c'est typique, là, il y avait une grange, là où il y a les vaches.
Ouais.
Et la grange est complètement tombée, il n'y a plus qu'une ruine. J'ai remis un nichoir dedans. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Il y a une autre grange un peu plus loin où il y a une chouette effraie dedans.
Sa petite balade, mais qui n'est pas terminée avec Patrick Deschamps. On va s'offrir un homme du sud-ouest, là on est plutôt dans le sud-est, et hop, voici Francis Cabrel, et ensuite Patrick Deschamps.
En ce moment, je suis avec une fille avec qui ça se passe bien. Ça fait déjà 3 jours qu'on est ensemble, et on a décidé de s'installer à la campagne. J'ai les photos, je vais te montrer.
En plus, il y a du terrain, on peut vivre de l'élevage. J'ai un copain qui m'a renseigné là-dessus. Lui, il faisait le porc, les premiers mois, il a eu des cas de suicide dans le bétail, mais après, ça s'est arrangé.
CO2, mon amour, sur France Inter.
On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, boule femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même notre éclat. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toujours.
Écoutez, si vous venez de prendre l'antenne, d'abord je ne vous félicite pas, vous pourriez écouter le début, non je plaisante. Mais c'est vrai que là nous étions avec Francis Cabrel et on va poursuivre ce voyage avec donc Patrick Deschamps. On est autour de Sainte-Marie-d'Alois. Où est Sainte-Marie-d'Alois? Dans le département de l'Isère et en ce début de printemps, nous sommes sous l'œil du massif de la Chartreuse. C'est très beau, c'est très sombre, c'est très pluvieux la Chartreuse, c'est très vert. Et en face, vous avez le massif plus ouvert du Belledonne. Entre les deux, la plaine du Grésivaudan et l'exploitation agricole des frères Bandet, c'est leur nom. Ça sent donc bon la vache, mais aussi un petit peu les hirondelles, les petits oiseaux. On va continuer avec Patrick Deschamps.
Pourquoi il n'y en a plus
de quoi dans les maisons?
Des hirondelles?
Ouais.
Ben moi, je crois que la grosse raison, d'abord, chez toi, c'est ouvert. La grange est ouverte, il y a possibilité de vernicher, mais il y a beaucoup de gens qui reprennent des fermes, qui ferment toutes les issues. Ouais. Donc, elles ne peuvent pas rentrer. En plus, les hirondelles, elles sont plutôt en tendance en régression parce qu'elles migrent en Afrique. En Afrique, elles se prennent des doses de pesticides. Elles arrivent ici, elles ne trouvent plus d'insectes volants. Il y a beaucoup moins d'insectes volants que dans le temps. Donc, il y a une quantité de nourriture bien faible. Or, les animaux se reproduisent qu'en fonction de la nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, elles ne se reproduisent pas.
Ouais. Bon, bah, écoutez, on va poursuivre cette petite balade. Vous avez une belle ferme, hein. Vous avez combien de bêtes là, monsieur?
Bon, là, avec les roues, enfin, combien? 400.
Et alors, c'est une ferme érotique, parce oui. que...
Il n'y a qu'à regarder les vaches dans le pré, comme elles
sont blanches, c'est des bonnes charolaises.
Qu'est-ce qui va me sortir?
Regarde, elles ont toutes des bas noirs, jusqu'à mi-mollet, n'est-ce pas érotique? Regarde ça, si elles sont belles. Ouais. Toutes blanches, avec le bas des pattes noires, c'est magnifique.
Oui,
il y a des gens que ça dérange, ils reçoivent des coups de téléphone anonymes, ils reçoivent des coups de téléphone anonymes, parce que... Ces malheureuses vaches qu'elles passent tout l'hiver dehors à se tremper dans la boue, non, qu'elles ont froid et tout. Mais ça, c'est les écolos mémères à chien-chien, tu sais, qui viennent pleurer pour ça. Elles sont malheureuses.
L'autre jour, on a eu ça, tous les éleveurs, on a eu des tas de problèmes de grippe cet hiver, quand il y a fait le moins 12. On a dedans, il a tout fallu piquer. On en a une soixantaine dehors, pas une de malade. Et les gens, ils râlent. Bien-être des animaux, tout ça.
Alors que c'est quand même une méconnaissance totale de ces bêtes-là.
Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas.
Alors Patrick, on va faire tenir, on va se... Maintenant que les chiens nous ont humés et flairés...
Les chiens nous ont mordu le mollet.
On traverse.
Bonne journée, on peut traverser.
On va rentrer dans la grange. Là, on est en train de traverser donc, cette ferme. On le rappelle, hein, quand même, il y a beaucoup de vaches. Et là, on a une scène merveilleuse. Deux vaches qui sont enlacées.
Hein, appuyées l'une contre l'autre, la tête contre l'épaule. Là. Quelle image d'amour. Il y a l'autre qui vient en plus lui lécher les oreilles. Ouais, regarde, c'est merveilleux.
C'est bien, ça. L'anecdote qu'il vient de nous raconter, là, M. Mandès, ça prouve une fois de plus peut-être cette coupure qu'il y a entre des présupposés vaguement écologiques qui n'en étaient pas, et puis cette coupure avec le monde... Le monde végétal, la nature en général, le monde de l'élevage.
C'est surtout la sensiblerie, c'est-à-dire que c'est des gens, ils considèrent les animaux que comme leur toutou, leur chien-chien, leur chacha, et ils s'imaginent que les vaches, ils doivent être à la maison avec un neurose autour du cou dans un panier. Mais ils s'imaginent pas que la vache, elle peut très bien survivre, elle a une couche de graisse, elle a de la fourrure, et elle va pas s'embêter l'hiver. Regarde le faucon qui nous passe au-dessus de la tête.
Ouais.
Elle va pas s'embêter à aller rentrer parce que simplement il pleut dehors.
Et heureusement qu'il y a des exploitations, qu'il y en a heureusement plein à la France, hein, comme celle-là, parce que l'entretien du paysage aussi...
Ah ben là, il n'y aurait pas la famille Bandet, la famille Grand, ici, dans le village, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus que du maïs ou des lotissements. Hein. Ah, c'est grâce à eux qu'il reste encore des arbres qui sont taillés pour faire de l'abri aux vaches l'été, du feuillage éventuellement. Sinon, ce serait tout en exploitation industrielle de noyer ou de maïs, il n'y aurait rien d'autre. Qu'il y a un pic dans le secteur, j'entends pic pic pic.
Toc 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 toc. C'est quoi? C'est un ver, un épêche?
Ouais, il y a un pic épêche. Il y a un gros pivert qui se balade par là aussi. Puis il y a des huppes, là. Cette semaine, il est passé 3-4 huppes. Là, c'est magnifique. C'est le plus bel oiseau qu'on puisse voir en ce moment, la huppe. Quand ça décolle dans la prairie, sur le fond vert tendre, avec la queue noire et blanche, les grandes ailes, on dirait un grand papillon. C'est magnifique.
Ah, et puis on entend les tourneaux, là aussi, Patrick.
Ah ouais, il y a des tourneaux, puis il y a le merle aussi qui alarme.
Celui qui est imitateur, il y a la griffe musicienne, il y a les tourneaux aussi.
Les tourneaux, ils imitent tout, il est même capable d'imiter une locomotive. Il est à côté d'un dépôt de gare, évidemment, du temps où il y avait des locomotives à vapeur.
Parce qu'il n'imite pas les TGV, les tourneaux.
Non, il ne sait pas faire.
Tac, 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 tac.
Non, c'est le merle.
Ouais, classique. Oh, bah le bambou se porte bien.
Ouais, il y a une belle forêt de bambou, là. Ouais, c'est magnifique, ça fait un dortoir à moineaux la nuit, c'est génial. C'est beau, hein. Là, ça fait voyager, là. On a l'œil qui zoome et puis on cherche le tigre qui se balade dans la bambouseraie, là, comme ça.
Alors, ce matin, j'ai pris que du thé, donc tout va bien. Mais oui, mais il y a un tigre, mais bien sûr.
Moi, j'ai bouffé de l'estragon ce matin.
Mais c'est pour ça. Eh oui, tout ça, c'est aphrodisiaque.
C'est du bon, hein.
Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, un feu rouge, retour à la civilisation. Le panneau publicitaire de 4 mètres sur 3, c'est bon. Enfin, on a retrouvé la vraie vie. Ah. Ah, Patrick Deschamps à quatre pattes, vous me devancez, qu'est-ce que vous regardez?
Écoute, c'est une espèce de réflexion philosophique. Je me dis, si Dieu il y a, il est là. Il est là dans le petit bourdon qui rentre sa tête dans le capitule, dans le calice de la fleur, là, clac, clac. Il est là dans le chant de la mésange à longue queue qui est en train de gueuler parce qu'on doit être près de son nid quelque part.
Ouais.
Il est dans le bruit du ruisseau qui descend, dans les nuages qui s'écartent pour nous laisser voir la neige sur les massifs de Chartreuse. Là, Dieu, il est là pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur les récits des textes de résistants liés à l'histoire de la libération de Grenoble en 44, en août 44. Je me dis que la vraie résistance, elle s'est faite dès les premiers jours, c'est-à-dire dès l'envahissement du territoire français, il y a des gens qui sont rentrés en résistance. Et je pense qu'on en est là. Et il y a une espèce de fraternité des gens qui rentrent en résistance. Le problème, c'est d'arriver à faire le lien entre tous les gens pour qu'ils ne restent pas isolés. Et tout le problème de la résistance à Grenoble, ça a été de faire le lien justement entre tous les individus qui voulaient se battre, ils ne savaient pas comment, et de les rassembler dans un vrai mouvement de résistance. Et un peu le boulot des médias, du service public.
60 ans après, oui.
Voilà. Bah, c'est de faire ça, c'est d'allier et relier tous ces gens qui se battent chacun de leur côté pour leur montrer qu'ils ne sont pas fous et que ça vaut le coup de se battre contre ce système qui est inhumain, qui est générateur de destruction et qui a des tas d'autres choses à faire. Et que tout prend un sens et que quand j'ouvre le courrier international et que je tombe sur un article où une ONG en Afrique a fait changer les mentalités de villageois, on peut se dire, mais pourquoi les villageois n'y ont pas pensé plus tôt, hein? Ils sont dans un village, ils crèvent à cause des maladies qui sont liées aux déchets, aux déjections, aux étrons qui sont dans le village, qui attirent des mouches, qui attirent des maladies parasitaires et tout ça.
Alors que tout ceci a de la valeur, alors racontez-nous.
Alors, ils ont simplement fait un système de latrine par roulement, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une tranchée qu'ils équipent en latrine. Tous les gens du village, au lieu d'aller faire leurs besoins partout autour du village, ils vont dans cette latrine. Et puis au bout d'un an, ils font une tranchée un peu plus loin, avec le même équipement qui déplace.
D'accord.
Et la partie qui a été polluée, elle est recouverte de terre, et on la laisse pendant 3-4 ans. Ça enrichit la terre d'humus, ça la nourrit en phosphore, en tout ça. Et après, ils cultivent. Et ils avaient des jardins magnifiques, avec des légumes et des poireaux magnifiques. Ils n'avaient plus de maladies, ils n'avaient plus rien, et le village vivait complètement.
Ah, alors là, on se déplace.
Là, c'est le compost. Alors évidemment, quand les gens passent devant le compost, ils font la fine narine, quoi. Il y a la narine qui frémit parce que dans les jardins qu'on voit tout autour, il n'y a pas de compost. Hein. C'est la pelouse. Donc personne n'aurait l'idée de jeter ses déchets verts dans le jardin. On est un peu à l'ancienne ici. Et alors là, on voit une pépinière qui est une pépinière réservée à tous les gens qui en ont marre des tuyas et des lauriers pour mettre autour de leur maison. Et alors, s'ils veulent prendre un prunier, un viornobier, un noisetier, un buis... un cornouiller sanguin,
c'est bien,
ils viennent se servir, là, voilà, là il y a un lilas, là il y a des altéas, là il y a un forsythia, donc c'est des trucs que je repique, par exemple, là je viens d'arracher une pousse de prunier, je peux la mettre en pot, et si quelqu'un veut mettre un prunier sauvage dans sa haie, il le prend. Au besoin, même on peut, comme on dit, saler la mine, c'est-à-dire qu'on va planter du prunier sauvage en douce dans les tuyas, en se disant c'est que quand les tuyas seront morts, le prunier sera toujours là.
Oui.
Voilà, c'est une forme de résistance.
On n'est pas dans une question d'optimisme ou de pessimisme par rapport à cette vie. c'est autre chose.
Il y en a qui disent ça, c'est-à-dire que l'important c'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé quand on a pris un choix, qu'on s'y tienne et qu'on aille jusqu'au bout.
Et donc d'être volontariste, voilà, c'est ça.
De foncer et puis de tenir un truc, et puis d'avancer par petites étapes éventuellement, pas vouloir rechanger le monde, mais que là où tu es, au moins que les choses changent là où tu es. Et si tout le monde fait ça autour de soi, finalement les choses elles vont changer par la force des choses.
Un homme qui vous donne envie avec une parole un petit peu différente, et c'est normal, vous êtes sur France Inter. Merci à Patrick Deschamps.
Alors, si j'ai bien compris, on risque de voir un jour pousser directement dans les champs des pots de yaourt, des bouteilles plastiques et des Lego. C'est vraiment sympa le progrès quand ça s'y met, hein.
C'est au de mon amour, avec Denis Chessou.
Moi-même, pas meilleur qui on dote, pour savoir moins envie à sorte. Qu'à garder sa capacité, ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. On paquet pour nous canne mort pour mer, même si qu'est aïe au vin en mer. Monter alliance et vendre des frères, on gagne trop faire et c'est longtemps. Passer des mairies en héritage. Les autres bien qui chômage, on vient dit l'argent en cas gagné, en cas gardé les autres qu'à bon penser. Mais moi-même, pas meilleur qui ont d'autres, on sort en moins à vie à sorte, dans cas gardé ça qu'à passer, ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Jeunesse qu'à Dispani a yen pouyo, et qu'à yo même qu'à faire bayo, c'est fait si n'a te critiquer. Messieurs imités pas dignités, Caribbean n'a pas un qui parle anglais. En cas de ça et ça c'est rien, ni des mouns ouais. Moi-même pas meilleur qui ont d'autres, on sort en moins à vie à zotte. Dans cas garder ça qu'a passé, ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Mande au cas une liberté, les ou pas ni l'argent pour pouvoir manger. Pour vivre égalité, les petits amalérés toujours malérés. Pour vivre fraternité, en cas voir pas qu'un nègre l'argent mette. En cas dire ça et ça c'est rien, ni des mouns ouais. Politique tout n'en m'a qu'à cri, intellect c'est l'assignage, y'a qu'à dormir. Y'a pas qu'être pour nous amuser, ça fait y'a belle et nous aider. L'histoire en nous pas qu'à avancer. C'est trop pirate des flibistiers. L'espoir qu'à mort, piti à piti. Les mains nous vina crétier. Moi-même, pas meilleur qui ont dot. Faut sauver en moins à vie à zot. L'en cas garder ça qu'à passer. Ni des mouns font nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe. Yeah, yeah! On gêne, tiré à si on gêne. On nègre, tiré à si on nègre. Ça qui pique criminel là-dedans tout ça. Nous c'est là nous qu'on garde ça. Moi-même pas meilleur qui on dort. Si sauver garder à vie à zot. Parce que un cas ouais ça qu'a passé. C'est nous-mêmes faut nous poursuivre pour crime contre la Guadeloupe.
C'était le groupe Soft. Ça nous permet d'ailleurs de saluer nos amis qui nous écoutent à la Guadeloupe en ce moment avec 5 ou 6 heures de décalage chez le matin. Donc, Quatuor Guadeloupéen, vraiment qui fait sensation sur la scène antillaise en ce moment. Et c'est vraiment très très bien. Et en plus, ce département est aussi doté d'un très joli parc national et je vous invite à le visiter. François Vaillerette, bonjour. Alors, François Vaillerette, vous êtes le président du mouvement pour le droit et le respect des générations futures et vous avez lancé cette semaine sans pesticides. On rappelle que dans la grande famille des pesticides, il y a des fongicides, il y a des insecticides, il y a des herbicides. Alors évidemment, tous ces produits, on le sait, sont testés, seraient sans danger. Bon, c'est ce que l'on nous met évidemment sur les boîtes diverses et variées, mais ça représente quand même un sacré volume en tonnage au
aujourd'hui, parce que je crois que nous sommes le troisième ou le second consommateur au monde, me semble-t-il, François Vaillerette.
Le troisième, Denis, derrière les États-Unis et le Brésil.
D'accord. Et donc, cette semaine sans pesticides, pourquoi faire? Quel est le but? Dites-nous tout.
Le but, justement, c'est non seulement de faire une semaine sans pesticides, mais de faire une semaine pour quelque chose, pour les alternatives, pour aider à trouver partout des alternatives à l'utilisation intensive des pesticides, que ce soit en agriculture, que ce soit en jardinage, que ce soit dans l'entretien des espaces verts ou des jardins des particuliers.
Alors, vous rencontrez, vous, depuis quand même un certain nombre d'années, et puis là particulièrement au cours de cette semaine, des citoyens, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient particuliers dans leur jardin, hein, ou bien travaillant dans différentes communes. Qu'est-ce que l'on voit? Est-ce qu'il y a effectivement une évolution aujourd'hui malgré tout?
Ouais, il y a une vraie évolution depuis les, disons, 5-6 ans. On s'aperçoit que maintenant, les citoyens sont informés, hein, effectivement, que ce soit des agriculteurs ou des jardiniers ou des responsables de communes ou de départements, hein, ou de simples particuliers. Les gens sont informés sur les dangers des pesticides, savent que ce sont des produits dangereux. Il y a de plus en plus d'études qui sortent dans notre pays et ailleurs qui montrent qu'il y a des dangers pour la santé. Maintenant, donc, les gens cherchent à apprendre à s'en passer le plus possible ou complètement. Bon, que ce soit des agriculteurs, hein, qui cherchent à trouver des méthodes pour en utiliser moins, ou tout du tout s'ils sont en biologie, que ce soit des jardiniers qui cherchent à apprendre des techniques de jardinage sans produits chimiques, ou que ce soit des parents d'élèves, par exemple, qui cherchent à pouvoir mettre en place des cantines bio dans leur commune, par exemple.
Lorsque l'on parle, mettons, alors des communes, on va parler des espaces verts, des espaces publics, ou bien des talus au bord des routes. Il y a des villes qui, maintenant, arrivent à se passer des pesticides et qui travaillent autrement?
Oui, là, on peut prendre quelques exemples rapidement. La ville de Rennes, par exemple, a quasiment supprimé l'utilisation des herbicides sur son territoire. La ville de Beauvais, sur une partie de son territoire, a banni les herbicides. La ville de Groslay, au nord de Paris, a également mis en place un programme de désherbage thermique, etc., etc. Et ça fonctionne donc au niveau de communes importantes comme celles que je viens de citer.
Qu'est-ce qu'il faut faire, je veux dire, parce qu'on est quand même sur des réflexes comme ça, qui sont des réflexes productivistes que l'on connaît. On voit bien, en plus, avec la hausse du prix du baril, on va quand même rappeler que pour fabriquer des engrais qui ne sont pas, hein, d'ailleurs des pesticides, enfin donc on a les engrais d'un côté, les pesticides de l'autre, il faut aussi pas mal de pétrole pour fabriquer une tonne d'engrais ou une tonne de pesticides.
Tout à fait, là on est dans ce qu'on appelle l'agrochimie ou la pétrochimie, c'est-à-dire que là on est sur des modes de production de produits qui nécessitent beaucoup de pétrole, donc ils vont devenir de plus en plus chers dans les années qui vont venir, parce qu'on voit bien qu'on va faire une augmentation du prix du baril de pétrole, et ça sera encore bien pire dans 15 ans, où là on fera à une période de tension extrême sur les marchés. Et donc, il faut déjà aussi, pour ces raisons économiques que vous avancez, anticiper sur l'après-pétrole, et donc anticiper sur le tout pesticide et le tout engrais de synthèse qui nécessite une grosse consommation de ce précieux pétrole.
François Vaillerette, lorsque, par exemple, je vais un peu cliquer sur l'arboriculture, bon, une fois de plus, hein, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser une profession, ce n'est pas ça du tout le problème, vraiment pas. C'est-à-dire, on se rend compte que 3 fois moins de pesticides sur les pommes, éventuellement, ce serait possible. Il y a une trentaine, lorsque l'on mange des pommes, on sait qu'il y a une trentaine de passages qui sont nécessaires. Il y a principalement la tavelure, qui est une maladie qui est causée par un champignon et qui fait des taches grises sur les pommes. Bon, c'est un simple problème d'apparence qui n'a pas d'incidence sur le coût et qui justifie, on va dire, les 2/3 de la trentaine de pulvérisations annuelles quand même, hein. C'est ça. Alors c'est peut-être là le problème numéro 1 des pommerais industrielles.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui je suis dans des vergers qui n'utilisent pas de pesticides de synthèse, qui sont situés en Picardie, dont ils sont pourtant sensibles pour les maladies fongiques, hein, donc comme la tavelure, mais sur des vergers où le producteur a fait des efforts de sélection de variétés résistantes aux maladies, il a mis en place des formes d'arbres très aérées, taillées de manière habile, de façon à ce que l'air et la lumière passent bien au sein de ces plantes pour réduire l'infection de tavelure, et en complétant ça avec quelques traitements d'origine végétale ou des poudres de roche, il arrive à tenir très très bien sa tavelure, aussi bien qu'un arboriculteur qui est en chimie, sans utiliser une goutte de produit chimique de synthèse. Donc on voit qu'on peut produire de manière rentable, en plus parce que ces fruits sont commercialisés dans des AMAP, hein, des associations de maintien de la culture paysanne, des réseaux, si vous voulez, producteurs consommateurs, et sont d'excellente qualité, y compris d'excellents aspects.
Et c'est
ils sont tous exactement de la même taille, mais ils sont très très beaux.
Lorsque l'on parle des AMAP, ça permet aussi quand même de réduire les distances, parce qu'on, je dirais qu'on relocalise la production.
Voilà. Et on retrouve notre fameux pétrole, puisqu'en vendant dans des circuits qui sont plus courts, on évite de consommer des litres de fuel inutile en allant consommer des fruits produits à 2 ou 3 000 km d'ici. Les fruits qui sont produits à Fontaine-la-Vagane, où je me trouve dans l'Oise, sont commercialisés dans un rayon de 50 km.
Voilà, mais on rappelle effectivement qu'on utilise à peu près 6 ou 7 variétés de pommes, alors qu'il y en a à peu près plus de 1000, et qu'il y a des pommes qui pourraient très bien résister, mais ça c'est donc un autre système. Juste un tout petit mot sur le jardin, donc on peut aussi bien sûr se passer de pesticides.
Tout à fait, donc il y a des séances de formation au jardinage sans pesticides qui sont organisées dans le cadre de cette semaine pour les alternatives aux pesticides en Ile-de-France et également dans la région Aquitaine.
Alors François Veillerette, on vous renvoie sur le site qui est sur notre propre site de CO2 Mon Amour. D'abord, émission que l'on peut réécouter pendant une semaine, que l'on peut enregistrer avec le système du podcast. www.semaine-sans-pesticides.com. Voilà, là vous avez tout et toutes les indications. Merci à vous François Veillerette, et puis continuez donc votre petit tour de France avec votre bâton de pèlerin. Vous êtes une des bêtes noires des producteurs de produits phytosanitaires, on s'en doute, mais ça ne vous démoralise pas une seconde. Merci à vous. Au revoir. Olivier Dalibot, Claudine Lapersonne était aujourd'hui à la technique. Merci à Victor Buton. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Jean-Christophe Pinaza et à Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Programmation musicale de Karl Vasseur. Vous avez un certain nombre de liens sur notre site. On remercie Anne Gouzon pour son travail. Et puis la semaine prochaine, et oui, vous avez remarqué, le baril monte, tout ça. Et donc en général, clac, les médias se jettent dessus. On s'intéresse au pétrole un peu plus qu'avant. Pierre Raderne viendra à ce micro et on parlera à travers son ouvrage qui s'appelle Énergie de ton siècle, des crises et aussi de la mutation, voir comment effectivement ce monde va évoluer avec une utilisation du pétrole là aussi qui sera différente. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end, vous l'avez compris, sur France Inter il est 15h et dans quelques instants les informations avec Michel Khalifa, sans oublier Isabelle Giordano et Le Monde selon WAM après les 10 informations.